Bonjour.
Bonjour.
Dis-moi, quel regard tu portes sur le passé de l'OFO?
Sur le passé de l'OFO, bah écoute, je suis déjà naturellement un garçon qui regarde pas trop souvent derrière moi. Maintenant, je me dis que l'OFO Forain, c'est dans ma vie d'homme, personnellement, c'est l'histoire que j'ai le mieux vécue. En tant que chanteur de l'OFO Forain, c'est là où j'ai le moins de mal à me regarder dans la glace. Voilà, disons que c'est une histoire, j'aurais jamais pensé que ça me tiendrait aussi longtemps. Moi, je pensais qu'au bout de 5 ans, j'en aurais marre, j'aurais arrêté, etc. quoi. Et là, ça va faire bientôt 20. Donc, je réalise pas, en fait. Je réalise pas parce que j'ai toujours autant de plaisir, voire même encore plus qu'au début, à faire de la musique avec mes potes, à monter sur scène. Donc, voilà... J'ai pas, je pense, un regard très objectif, mais voilà, le mien, il ressemble à peu près à ça.
Au niveau du public, tu vois qu'il y a une évolution, c'est toujours le même, il y a un renouvellement.
Il y a de tout, il y a des fidèles des débuts qui sont encore là aujourd'hui. Il y a, depuis ces dernières années, comme il y a eu un peu un renouveau enfin, de la scène rock, enfin le rock est redevenu au goût du jour, on va dire. Donc il y a toute une nouvelle génération d'ados qui viennent nous voir, qui nous découvrent. Et ça, c'est hyper plaisant. Donc des gens, pour certains, qui sont plus jeunes que notre groupe. Et c'est vraiment plaisant de d'être un peu les tontons pour ces gens-là, tu vois. Et puis il y a des gens qui nous découvrent encore aujourd'hui. Des gens qui peuvent avoir 30, 40, voire même le week-end dernier, on jouait à Cognac. Il y avait un couple de gens qui avaient, je pense, une cinquantaine d'années, quoi. Et qui n'étaient pas forcément avec des looks destroy, rock'n'roll et tout, et qui sont venus se faire en couple un petit concert de l'OFO, et ils ont pris leurs pieds, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles, et le plus jeune ce soir-là, je crois, avait 13 ou 14 ans. Et moi, je suis super fier par rapport à mon groupe, c'est de ne pas avoir un public de clones, quoi.
D'accord.
Tu vois, ça me ferait chier d'avoir qu'une plage de galets avec. Enfin, on dit ça quand les mecs ont tous le crâne rasé, avec des casquettes New York, ou, tu vois, faire du violent dancing, ou avoir que des. Que des créteux, ou et ben nous on a un peu de tout, quoi. Et moi franchement c'est la plus grande fierté que j'ai avec ce groupe, c'est de pas avoir un public de clones, parce qu'on est un peu des phobiques de la pensée unique, on va dire, tu vois. Donc voir que notre public est aussi varié, métissé, c'est rassurant.
D'ailleurs, en parlant de ça, quelles sont vos influences?
Nos influences musicales au départ de l'OFO, ça a été ces groupes qui venaient de la scène hardcore américaine, donc les pionniers dans le genre, c'est Black Flag, Bad Brains, Minor Threat, au milieu des années 80 aux États-Unis. Et puis après, ce qui en a découlé avec des groupes comme Suicidal Tendencies, des groupes comme Biohazard, comme Helmet, on appelle ça plus du crossover. D'ailleurs, quand nous on va tourner au Québec, c'est comme ça qu'on est étiqueté, on est un groupe de crossover.
D'accord.
Crossover, c'est une forme de rock un peu métal, mais aux influences variées, qui peut un peu tout se permettre en restant dans une énergie un petit peu punk quand même.
D'accord.
Donc voilà, nos influences, avant tout, c'est ces groupes-là. Et puis après, il s'est passé plein de choses. On écoute vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes, quoi. Je veux dire, dans l'OFO, notamment, Pierre le batteur est fan de musique des tablas indiens, et il peut te mettre une partie de double grosse caisse qui va être directement inspirée d'une partie de tabla indienne, mais ça va pas sans, évidemment, tu vas pas dire, ça fait indien ce passage-là. Juste non, ça va être différent parce que peut-être on a cette ouverture d'esprit, quoi.
Ouais.
Ou alors Daniel, notre guitariste, il a toujours dans ses riffs, il a toujours une petite note en l'air, en contretemps, qui rend le truc groovy, mais un peu chelou. Et en fait, ça vient de la musique caribéenne qu'écoutait sa maman dans la cuisine quand il était petit. Et un coup, il nous a retrouvé une cassette et on a écouté, on a halluciné, quoi. Parce qu'il y avait vraiment ces petits tics comme il a dans son jeu, alors que c'est un guitariste de metal hardcore quand même, tu vois. Voilà.
Tu peux me parler de Sri Racha?
Ouais. Ça a été une belle histoire. Pendant 15 ans, on avait une structure qui s'est monté autour du groupe et avec le groupe. Ça a permis à des groupes comme à l'époque One Eye Jack ou Ekova de faire un bout de chemin, quoi. Et ça nous aura tenu 15 ans de notre vie. Là, on est en train de mettre la clé sous la porte depuis quelques mois. Ça sera définitivement fini à la fin de l'année 2007. Mmh. Et puis voilà, c'était une belle aventure de collectif. Je pense qu'on ne l'a pas fait pour rien, même s'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour rien pendant longtemps là-dedans. Mais je pense que ça a donné le goût à pas mal de gens en France de aussi monter des collectifs. Mmh. Et de enfin, moi, je vois qu'au tout début de l'Ofofora, dès que tu avais 2-3 groupes dans une ville ou dans un petit bled, ils se tiraient dans les pattes pour la plupart pour savoir lequel valait le plus la peine d'exister. Et aujourd'hui, de plus en plus, bah, quand il y a 2-3 groupes dans un coin, ils se mettent ensemble pour organiser des choses, quoi.
Ouais.
Bah, je dis pas que c'est grâce à nous, mais je pense qu'on a contribué un petit peu à cet état d'esprit. Et voilà, tant mieux, quoi. Ouais. Voilà. Je pense que, tu vois, quelque part, on a pu influencer des coriaces, des antistatiques, et c'est tant mieux, quoi.
Okay. Là, vous avez sorti Mémoire de singe.
Ouais.
Juste là, maintenant.
Ouais.
Ton impression ? Le ressenti du public, enfin, de vos fans.
Enfin, j'étais super anxieux parce que je me suis fait, j'avais le cou bloqué pendant une semaine, tellement j'ai somatisé de stress, à savoir. Enfin, parce que tu sais, on dit tout le temps, ouais, au deuxième, au troisième album, on t'attend au tournant, mais au sixième, enfin, ça, c'est notre huitième ou neuvième disque, et c'est notre sixième album studio. Faut juste que. J'ai pas envie de donner l'impression parce que c'est pas la vérité qu'on fait ça juste parce que c'est notre habitude, c'est notre boulot, quoi. Faut tu vois, si tu fais un sixième disque, faut prouver que il a une raison d'exister, ce disque là
ouais.
Bah, je crois qu'il l'a. Voilà. Donc c'est ça que je m'angoissais à ce propos. Et même s'il y a encore plein de gens qui détestent nos disques, parce que t'as des gens, ils voudraient qu'on refasse toujours le premier album en boucle. Mais on n'est pas de ces groupes-là, quoi. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps sur le forum de l'OFO, nous, on ne fait pas de la musique comme Luc Besson fait du cinéma.
D'accord.
Voilà. Donc, on a envie à chaque fois de se replonger dans un contexte différent et donner à chaud nos impressions sur le monde qui nous entoure par notre musique. On met nos tripes sur la table, on prend la température et c'est ça la teneur, c'est ça du l'OFO, quoi, en fait. Voilà, quoi. Donc, je pense que on est encore assez fidèles à nous-mêmes. C'est un disque où pour une fois, j'en ai un peu rien à secouer de cette étiquette de chanteur engagé qui m'embarrassait des fois. Et maintenant, je me dis, bon, ça fait plaisir aux gens de me mettre une étiquette sur le dos. Je m'en fous, après tout. Peut-être je l'ai bien cherché. Et aussi assumer parfois dans certains textes un certain premier degré.
D'accord.
Où des fois, j'avais un petit peu de mal avec ça. Et aujourd'hui, je me dis, allez, c'est bon, quoi. Enfin, je sais que je viens du punk et du hardcore, et le premier degré, il a sa place aussi dans ces musiques-là, et ça fait partie intégrante de la sauvagerie du rock, tu vois, cette espèce de premier degré. Et je pense que c'est important de communiquer ça à la nouvelle génération qui découvre des groupes de live, tu vois, en ce moment.
Vous avez choisi d'enregistrer dans le studio de Gorija.
Gojira.
Gojira.
Ça peut arriver.
Pourquoi ce choix ?
On ne savait pas avec qui, parce que enregistrer cet album, on s'est posé la question pendant longtemps. Et puis à un moment, nous est venu en tête le nom de Laos. Laos, c'est l'ingé son, oui. Nom des Gojira. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais oui, évidemment. Et c'était pas pour avoir le même son que Gojira, parce que eux ont une identité sonore très, qui leur est propre et très marquée. Et c'était pas le but, c'était juste, on connaît ce groupe depuis leur début. On les suit, on les soutient, on est fan, tu vois, depuis très longtemps de ce groupe. On est impressionné par cette manière que Laos peut avoir de retranscrire ça sur de la bande, c'est-à-dire un son à la fois très large et très dynamique en même temps. Et on avait envie de ça. Parce que souvent les productions punk, hardcore, etc., ou metal, c'est souvent un son très compressé, qui ont l'air de. Enfin, pour imaginer le truc, pour les gens qui voient pas ce que c'est, un son compressé, ça te donne l'impression que ton son, il sort d'un tuyau assez restreint, quoi. Alors que là, on avait envie que ça sonne large, que ça fasse du vent, quoi, tu vois. Voilà. Et je pense qu'on est vraiment hyper satisfait du résultat. Et puis, il y avait un petit côté malin de notre part. C'est en s'adressant à un jeune gars comme Laos, qui, même si aujourd'hui son talent est reconnu, il n'a pas encore fait 50 albums, ouais. Et on ne sera pas juste un album de plus sur son CV, tu vois. On sait que Lofo, c'est un groupe qui compte pour lui. On s'est rencontrés, il y a plus de 10 ans. Et c'était on savait qu'on lui mettait un peu un challenge entre les pattes. Et il l'a vécu comme ça. Et il s'en est hyper bien sorti. On est vraiment hyper satisfait du travail qu'il a effectué, de la couleur qu'il nous a donnée.
Voilà. Okay. Moi, j'aimerais bien maintenant que tu me parles de la pochette de l'album.
Ouais.
Vous avez voulu changer,
ouais.
Pas faire du tout comme d'habitude.
Non. Donc, d'habitude, voilà. C'est Phil, le bassiste de Lofo, qui s'occupait de tous les visuels des pochettes.
Des pochettes.
Ce coup-ci, il nous a dit, bon, les gars,
débrouillez-vous.
Là, je crois que je ne vais pas avoir d'idée. Et puis, il avait surtout envie de se concentrer vraiment à 100% sur sa basse que de voir en même temps. Parce que généralement, il dessinait les pochettes en même temps qu'on était en studio, quoi. Ça se faisait un peu comme ça.
Un peu à l'arrache.
Et là, il avait envie d'avoir l'esprit un peu libéré. Et comme on sait que nos albums sont toujours en premier en digipack,
ouais.
On avait envie... Je trouvais que une peinture, enfin un dessin... fait à la peinture au pinceau sur un reproduit sur un support carton,
ouais.
je trouve qu'il y a une certaine logique, enfin il y a ça fait un objet, quoi, ça,
ouais.
Et donc on a essayé de penser aux gens qu'on connaissait qui faisaient de la peinture et qui étaient encore vivants et on a pensé vite fait à King Ju, en fait, de Stupéflip, mm-hmm. qui est à la fois la voix et donc le graphiste de Stupéflip, quoi. Et voilà, et donc on l'a appelé, on le connaissait déjà un petit peu, il est venu nous voir en local, il était hyper content qu'on lui fasse cette proposition. Au fur et à mesure de la compo, on lui envoyait nos maquettes et tout, les bouts de texte, genre, il avait tout comme s'il faisait partie du groupe, en fait. On a eu des discussions, je lui ai dit ce que j'avais dans le crâne au moment où j'écrivais mes paroles, que j'étais assez baigné dans un espèce d'idée comme ça, comme quoi notre présent il ressemble de plus en plus à Brésil 1984, tu vois, on n'est pas loin de la planète des singes non plus, tu vois, et en tout cas on y va tout droit, quoi, vers ce genre de scénario, et voilà, c'est quelque chose qui m'oppresse un petit peu, donc ça fallait que ça sorte, et lui est on s'est rendu compte qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde,
ouais.
On a des on a les mêmes référence artistique, quoi. Lui aussi, c'est un gros fan de Suicidal Tendencies. Lui aussi, c'est un gros fan de Bertrand Blier. Tout comme moi, c'est un fan de Charles Burns,
mm-hmm.
pour la BD. Moi, c'est mon dessinateur préféré, tu vois. Ouais, on aurait eu les moyens, ou le culot, peut-être, juste. On aurait demandé à Charles Burns, peut-être. On le fera pour le prochain album.
Peut-être.
Voilà.
Alors, revenons un peu à la réalité.
C'est la réalité,
oui,
madame.
Oui. Excuse-moi. L'actualité.
L'actualité,
plutôt.
D'accord.
Venons aux grèves en ce moment.
Ouais.
Qui doit un peu t'irriter.
Pas assez dingue comment cette histoire de décomplexisation, je sais pas quoi. Enfin, la droite décomplexée et la gauche qui complexe. Enfin, la gauche. Je parle pas de la gauche en pensant à une étiquette de parti particulière, je parle juste à des sensibilités, quoi. Et aujourd'hui, on essaye de te faire croire que c'est ringard, tu vois, de pas être d'accord. Voilà, c'est absurde, c'est vraiment le meilleur des mondes, c'est Brésil, c'est un système de caste qui se remet en place, quoi. C'est comme j'ai écrit, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle Nobody's Perfect,
ouais.
Tu vois. Et voilà, c'est chacun sa caste, tous dans la secte, nobody's perfect. Et je trouve qu'on en est vraiment là, et c'est pas encore trop grave pour nous, mais moi j'ai une fille, peut-être si elle aura des enfants, et j'ai peur pour eux, quoi. Voilà. À la fois, j'ai lu quelque part qu'il paraît que tous les êtres humains de tout temps, ils ont toujours cru qu'ils vivaient la pire époque. Donc je sais pas, mais je sais pas si. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est juste, tu vois. Une folie de ma part, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient vraiment, tu vois, quand t'es pas d'accord, enfin, puis cette histoire de grève, là, putain, ça sert à quoi une grève que tu prévois un mois et demi à la... tu préviens un mois et demi à l'avance que tu vas faire grève, tu vois, donc tout s'est organisé pour que ça foute le moins la merde possible, tu vois, et la grève est pas reconduite, donc c'est vraiment même, non, mais moi je dis franchement, Bonaparte, il est fort. T'es pas obligé. Quand même. Non, c'est... Moi, je, pareil, on a fait cette chanson, parce que je parlais de King Ju, oui. Et comme on l'avait sous la main, on a fait une chanson ensemble qui s'appelle Torture.
Ouais.
Et bon, je te cacherai pas, ça sent peut-être, ça c'est, ce texte, on l'a écrit au lendemain du résultat des présidentielles. Et voilà, il y a une phrase qui nous vient sans arrêt qui nous venait presque sous cette forme-là, naturellement, en bouche, quand on discutait avec Julien, quoi. C'était, ils se rendent même pas compte de comment on leur parle. Et voilà, quoi. Voilà, c'est vraiment, cette phrase-là, je l'ai 10 fois par jour qui me traverse la tête, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut parler comme ça aux gens, quoi? Et qui trouvent ça normal. J'hallucine complètement. Je sais pas, je pense que, je sais pas jusqu'où on peut aller dans le conditionnement de l'humain, quoi. Ça, c'est un sujet qui me passionne pas mal, quoi.
Et c'est pas fini.
Jusqu'où on va pouvoir aller? Bah, bientôt, on aura des puces implantées sous la peau. Déjà, ça c'est sûr. Hein. Si c'est pas nous, ça sera nos enfants. Très rapidement, quoi. Et je sais pas jusqu'où on va pouvoir aller dans le formatage de l'être humain, qui est juste finalement tout ce processus. Il est fait pour satisfaire les intérêts de, je sais pas, entre 30 et 50 familles sur Terre, quoi. Qui tiennent les ficelles de ce monde et avec des lois qui échappent complètement à toutes les démocraties. Qu'on nous encense comme étant l'exemple, tu vois, mais non. Mais à ce moment-là, qu'on nous fasse voter pour élire, qu'on fasse voter le peuple français pour faire élire nouveau président du MEDEF, là, on pourra dire qu'on vit en démocratie. Voilà, quoi. Mais qu'on a arrêté. Donc voilà pourquoi on est fâché comme ça, voilà. Faut pas me poser des questions comme ça, t'as vu, je fais des réponses de 20 minutes après.
Mais si, justement. Un peu voulu.
D'accord, ok.
Donc voilà, mais écoute, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter?
Bah, juste à rajouter que... arrêtez de prendre des photos avec vos portables pendant les concerts, c'est pathétique. Les photos sont pourries déjà. Et à la fois, ça me fait marrer quand je vois sur YouTube un bout de 30 secondes avec un son qui fait... comme ça, tu vois. Ça, j'aime beaucoup. J'apprécie. Non, franchement, ça, j'adore. Et non, juste pour... tu vois, là, on est dans un lieu, quoi, qui est... je viens de découvrir aujourd'hui ce qui est sûrement la plus belle salle qu'on ait en France. Or, je vais dire, Toulousain, viens pas te plaindre. Et surtout, bouge ton derche. Et il faut voir des spectacles vivants, quoi. Avant qu'on ait tous une petite boîte d'où sortira l'hologramme qui te fera ton concert de Radiohead dans ton 18 mètres carrés. Tu vois, avant qu'on en arrive à cette époque-là, sors de chez toi et va voir des spectacles et voilà, quoi. Et je vais pas faire un chapitre sur le téléchargement parce que...
Mais si, vas-y.
Disons que ça fait un petit peu chier quand même, voilà. Ça fait un petit peu chier de voir que, tu vois, je devrais pas dire ça parce que les gens vont le faire. La semaine dernière, j'ai été voir sur Imul, ça faisait 5 jours que notre album est sorti. Et j'ai, en un clic, en moins d'une heure, j'avais l'album de Lofo, avec la pochette, tu vois, dans mon ordi. Et je sais pas ce qui motive ces gens-là à faire ça, en fait. Tu vois, je sais pas ce qui motive les gens à mettre des choses toutes fraîches, là, à peine sorties du cellophane, déjà sur, tu vois, les livrer gratuitement sur la toile. Tu vois, moi, je télécharge des films... des vieux films de Audiard ou des trucs comme ça, mais je pense que Audiard, il en a plus rien à foutre de où il est aujourd'hui, de savoir qu'il ne touchera pas un rond sur ces parts-là, quoi. Et je trouve ça assez bizarre, quoi, cette forme d'irresponsabilité. Je pense que c'est bien, quelque part, le téléchargement pour découvrir des choses. Maintenant, il y a de plus en plus d'endroits où tu peux écouter la musique des groupes, les découvrir sans avoir à télécharger, tu vois. Et c'est vrai que les disques sont beaucoup trop chers, que surtout les revendeurs et les distributeurs prennent des marges pas possibles, tu vois.
Parce que le
coût de fabrication d'un CD, quand même, faut que les gens y soient au courant, c'est 2,50 €. Voilà. Donc quand on le vend 18 ou 19 euros en Fnac, faut pas s'étonner que les gens le téléchargent. Mais moi je dis, si vous avez des couilles, allez le voler à la Fnac plutôt que de le voler sur la toile.
Non, il ne faut pas inciter les gens à voler, non.
Ah bon, je croyais que tu me dis, il ne fallait pas dire couille.
Oh, tu peux dire plein
non,
de choses.
Non, mais moi, je m'en fous. Non, il ne faut pas les inciter, mais faites-le, si vous avez... Mais non, mais à la fois, ils le font. Ils le font de chez... Tu vois, c'est plus facile de voler de chez soi.
Après,
de...
ils le font sur Emule et compagnie, donc...
Mais j'arrête parce que je vais tenir le même discours que Pascal Nègre et je vais me détester très vite.
Voilà. Non, mais c'est vrai aussi, après, ils le font, donc...
Ouais. Non, mais c'est normal. Moi, ma fille, elle télécharge et des fois, j'ai fait... Putain... Mais bon, quand c'est des singles, une chanson par-ci, par-là, tu vois, c'est pas non plus, tu vois...
Après, un album entier...
Mais bon, télécharger des... Tu vois, là, sur Emule, t'as des mecs, ils ont mis en fichier zip... T'as Lofofora, discographie complète, tu vois. Tu fais un clic, t'attends 24 heures et t'as tous nos CD comme ça, gratos. Tous des trucs, quand même, il y a de la sueur, il y a de l'énergie dedans, il y a tout ça. On se fait chier à faire des boîtes. Et puis nos disques, quand on les mixe, quand on les masterise, c'est pas du MP3, quoi. C'est du wave, c'est du vrai son, quoi, tu vois. C'est pas des cymbales en plastique sur lesquelles joue Pierre, tu vois. Donc voilà, juste pour un peu de respect de tout ça, mais... Bah bon, voilà, on est un petit peu triste de savoir que le support disque, dans 2 ans, ça existera sûrement plus du tout.
Ouais.
Voilà. Parce que moi, je suis de la vieille génération qui passait son adolescence, tu vois, à écouter des vinyles en boucle avec la pochette en carton entre les mains, avec les yeux qui scintillaient. Il y avait un vrai rapport physique à la musique qui passait par cet objet-là. Et le fait que ce rapport n'existe plus ou presque plus aujourd'hui, je sais pas, pour le coup je suis nostalgique, j'aime pas trop ce sentiment là.
Ouais, c'est un peu dommage.
Voilà, je sais pas.
Mais après, je sais pas, t'as d'autres choses à rajouter? Vas-y.
Non, c'est tout, hein, c'est tout. C'est tout. Faites des grèves et. Plus que. Et voilà. Non, faut boycotter aussi. Ah, j'appelle au boycott. Hein. Voilà. Moi, je fais jamais mon plein chez Total par exemple.
D'accord.
Voilà. Je pense que si on était nombreux à se dire juste ça. Ben, je pense qu'on pourrait... C'est le seul pouvoir qu'on ait aujourd'hui.
Ouais.
Tu vois ? Aujourd'hui, la démocratie, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, on est des contribuables et des consommateurs. Donc, dites-vous que votre pouvoir, il passe par là. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez rien à rien, que de toute façon, c'est écrit d'avance, et puis c'est comme ça, puis on n'y peut rien contre la mondialisation, nanani nanana, eh ben ok, bah, continuez à regarder Coé sur TF1. Et puis sinon... Sinon, voilà, essayez d'avoir des gestes un peu responsables, quoi.
Tu vises bien mal quand même, Coé.
Bah ouais, mais bon, c'est un peu le maître étalon de la culture française aujourd'hui. Hein. Ah, j'ai fait mal, là. Ah ouais, mais bon, le mec, il cartonne, hein, excuse-moi. Hein. C'est que tu vois, il concerne pas juste un village de consanguins dans la banlieue de Douai, si tu veux. Apparemment, ça intéresse beaucoup plus de gens que ça, quoi. Et ça me fait flipper aussi, quoi. Voilà.
Après Sarko, Coé.
Sarko, Coé. Bon, faut que j'y aille maintenant.
Merci.
À bientôt. Salut. Au